France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, ce n'est pas aux auditeurs de France Musique que je vais révéler les bienfaits de la musique. Elle permet de s'évader, de quitter le quotidien, de s'émouvoir, de se donner de l'énergie, de voyager dans le temps et dans l'espace. La musique est agréable. Mais deux scientifiques, Emmanuel Bigand et Barbara Tillman, vont plus loin et nous apprennent que la musique est indispensable. Indispensable pas seulement à notre bien-être ou à notre environnement, mais à notre cerveau. Avant même d'avoir terminé la lecture de leur livre, on n'a qu'une envie, c'est de se précipiter sur son piano ou son violon, qu'on a relégué dans un coin, faute de temps, ou de se mettre à chanter. La symphonie neuronale, pourquoi la musique est indispensable au cerveau, d'Emmanuel Bigand et Barbara Tillman, publié chez Human Science. Des Oronki au piano, c'était un extrait de Pour les enfants de Béla Bartok. Bonjour Emmanuel Bigand.
Bonjour.
Vous êtes contrebassiste, vous avez joué dans l'Orchestre français des jeunes, à l'Opéra de Marseille, même à l'Orchestre national de France, et puis vous êtes également professeur de psychologie cognitive, membre de l'Institut universitaire de France, rattaché à Dijon, au laboratoire CNRS de l'apprentissage et du développement. Et vous avez écrit ce livre avec Barbara Tillman, directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. J'ai fait écouter, pour commencer, une pièce destinée aux enfants, parce que votre livre commence par, justement, le nourrisson et même le fœtus et la musique. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais vous contestez, en fait, d'emblée, l'idée selon laquelle la musique se réduirait à un simple passe-temps, un loisir comme un autre, un moyen de se changer les idées, éventuellement de se cultiver, comme aller au cinéma ou au musée. Alors quand vous parlez de la musique, dans ces cas-là, c'est l'écoute ou la pratique, ou les deux ?
ce qui est visé, c'est le fait que on a une capacité pour musicaliser les sons. Et ouais. cette capacité-là se manifeste par toutes les musiques que l'on fait. Ce que nous la contestons, c'est l'idée que cette capacité-là est juste pour se rendre la vie plus agréable. Ouais. Et l'enjeu est le suivant, en fait. Les loisirs ne sont pas portés par des structures neuronales qui ont évolué spécifiquement pour eux. Les loisirs sont portés par des structures neuronales qui sont faites pour des activités sérieuses. Et si la musique est un loisir, il n'y a pas de neurones pour la musique. Et ce que nous montrons, c'est que c'est tout l'inverse. Ouais. Donc il y a une autre fonction.
Oui. Et ce qui est très impressionnant, c'est que vous convoquez plusieurs études sur le fœtus, sur les nourrissons, l'étude sur leur comportement et voir comment la musique accompagne le processus de développement et de l'apprentissage des connaissances chez un nourrisson. C'est très très impressionnant quand même.
Oui, alors l'idée repose, si vous voulez, sur le fait que les loisirs et même les objets de culture, ils arrivent tardivement dans l'ontogénèse. Oui, oui. Et ce qu'on sait sur le bébé humain, c'est qu'il est prédisposé à traiter les structures qui sont pertinentes pour lui. Et les réactions du bébé, voire du fœtus, à la musique sont extrêmement surprenante pour cela, parce qu'on peut pas les expliquer comme un objet de loisir ou de culture. Ça veut dire Bien que sûr. C'est un objet biologique. De la même façon, si vous voulez, le bébé réagit par des grimaces lorsqu'on lui présente des odeurs qui sont dangereuses, c'est-à-dire qui sont associées à des éléments dangereux. Il est prédisposé pour faire ça. Mmh. Le bébé est prédisposé pour traiter la musique, et ça a une fonction. Et c'est ce qu'on va expliquer, l'origine de cette fonction de la naissance à la mort, en quelque sorte, dans le livre.
Et alors, cette prédisposition, elle est la même chez tous les êtres humains ?
Ah, c'est une prédisposition de l'espèce humaine. Pourquoi ? Parce que notre espèce, notre lignée, a basé toute son adaptation sur la communication avec les autres et sur la collaboration avec les autres. Et la prise en charge du bébé humain va être quelque chose de fondamental. La musique joue un rôle dans l'espèce humaine essentiel pour faire cela, parce que si le bébé n'est pas pris en charge par son environnement, ben le bébé va mourir et l'espèce va mourir. Donc chez nous, dans l'espèce humaine, cette caractéristique-là a un rôle tout à fait fondamental.
Vous faites un parallèle entre le langage et la musique, c'est-à-dire que donc la musique serait nécessaire à l'apprentissage et au développement du langage.
Oui, globalement, il y a deux façons de penser les choses, enfin, oui. disons, avec des variantes bien sûr, oui. mais par exemple Stefan Pinker, pour lui le langage est une donnée de l'évolution et qui est totalement fondamentale. La musique serait une pantomime du langage et utiliserait les ressources du langage. Pinker dit que la musique squatte les réseaux neuronaux du langage. Mais il y a une autre version qui a été proposée par Darwin initialement et qui est maintenant développée par les psychologues, que la musique est essentielle pour la prise en charge émotionnelle du nourrisson dès les premiers instants, et la musique présente des avantages pour faire cela que le langage n'a pas. Donc il est tout à fait possible que l'ordre soit inverse, c'est-à-dire que la musicalité initiale va donner lieu à ensuite une forme de communication plus élaborée qui sera la fonction linguistique. Et ça, c'est tout à fait essentiel, parce que quand vous travaillez dans le domaine de la thérapie, si la musique précède le langage, vous pouvez utiliser la musique pour des actions thérapeutiques, mais pas si c'est l'inverse.
Et ce qui est quand même très impressionnant, c'est, on sait qu'évidemment, il y a un nombre de langues totalement extrêmement important, de musiques, de styles complètement différents, et malgré cette grande ouverture, cette grande différenciation de langage et de musique, on arrive quand même à trouver des parallèles, des points communs.
Ben, les points communs entre musique et langage, ils sont décrits depuis très longtemps. Et d'ailleurs, la musicologie a passé beaucoup de temps à faire cela. Des musicologues comme Heinrich Schenker ont été des précurseurs du linguiste Noam Chomsky. Et des auteurs comme Lerdal Jackendoff ont formalisé ces liens entre musique et langage. Ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est de pouvoir voir en fait ce qui se passe dans le cerveau. Et ce qui nous a intrigués, enfin nous, la communauté scientifique, c'était de voir que les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans le traitement du langage sont très proches de ceux de la musique. Et la question, c'est de dire, mais pourquoi c'est ainsi? Si la musique est un loisir, il n'y a pas de raison que ça se passe comme cela. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que le bébé est plus sensible à la musique qu'au langage, ce qui laisse penser que la musique est un précurseur, un super stimulus déclencheur des capacités linguistiques. Et c'est un petit peu ce qu'on décrit dans les expériences faites sur l'embryon, qui sont tout à fait surprenantes. L'embryon, dès le quatrième mois, répond à la musique avec des gestes linguistiques, des mouvements de langue et des mouvements de bouche, comme s'il parlait. Et il répond plus à la musique, comme cela, qu'au langage.
Raskil interprétait le début des variations sur « Ah, vous dirais-je, maman » de Mozart. Emmanuel Bigan, vous citez cette œuvre pour expliquer que, en fait, n'importe qui, sans avoir fait d'études musicales très poussées, reconnaît en écoutant justement un thème et des variations que c'est un même sujet qui évolue dans le temps.
Oui, alors ça me ramène au début de mes recherches. J'ai beaucoup travaillé sur le thème et la variation parce qu'en fait, on a un parallèle avec le langage. Vous voyez, dans le langage, vous pouvez avoir une idée et vous pouvez faire plusieurs paraphrases autour de cette idée. Tout le monde comprend ces paraphrases comme dérivant d'une idée. Mais dans la variation, c'est pareil. Vous avez une idée et puis vous avez un thème, vous pouvez faire des paraphrases. Et ce qui m'amusait lorsque j'étais à l'orchestre, c'était de faire des blagues à mes collègues d'orchestre et à mes collègues étudiants qui connaissaient pas la musique. Je mettais dans les variations des variations qui n'étaient pas celles du thème et je leur demandais de chercher l'intrus. Et en fait, je me suis rendu compte que, bizarrement, contrairement à ce que j'attendais, même mes collègues en psycho qui connaissaient pas la musique étaient assez bons pour trouver ça. Mes collègues de l'orchestre aussi. Hein. Mais ça laissait penser que cette capacité de compréhension du langage musical n'était pas quelque chose qui se développait dans les écoles de musique spécifiquement, mais que tout le monde avait une aptitude pour comprendre les structures musicales, jusqu'à un certain point, de la même façon qu'on a tous une aptitude pour comprendre le langage. Et du coup, le parallèle m'a semblé évident, la compétence pour la musique se développe naturellement, simplement parce qu'on vit dans un environnement qui contient plein de musique.
Donc en fait, c'est un message très optimiste que vous adressez à votre lecteur Emmanuel Bigan, c'est-à-dire que tout le monde est absolument capable et même, de par nature, de comprendre et de saisir quand même l'essentiel de la musique.
Oui, alors on a fait beaucoup de projets de recherche là-dessus. En fait, toute ma carrière était là-dessus. J'ai travaillé beaucoup avec les musicologues, notamment François Madurel à la Sorbonne, pour essayer de piéger en quelque sorte les auditeurs et voir à quel moment les non-musiciens pouvaient se laisser prendre. Alors bien sûr, il faut prendre une précaution méthodologique. Il faut faire des tests indirects comme on sait faire en psychologie. Il ne faut pas s'adresser directement à eux comme on fait comme un examen au conservatoire, par exemple. Mais si on prend ces précautions méthodologiques, on se rend compte que les musiciens sont envers la musique, un petit peu comme un enfant de 6-7 ans ou 5-6 ans avec le langage. Il comprend des tas de choses, même s'il ne sait pas encore analyser quel est le sujet, le verbe de la phrase. Et on est allé assez loin, on a fait des tests, notamment avec le compositeur Daniel D'Adamo sur la compréhension de la musique contemporaine et la musique sérielle, et on a été stupéfait de voir à quel point des auditeurs sans formation musicale peuvent entendre correctement ces structures, évidemment si on prend la précaution de poser correctement les questions.
C'est-à-dire de poser correctement les questions alors.
Mais écoutez, si vous voulez, il y a une différence entre les examens académiques où on est au solfège et puis on dit qu'est-ce que c'est qu'un accord parfait, est-ce que vous avez entendu une cadence parfaite, etc. Ouais. Et puis avoir d'autres types de tests que je vais pas trop décrire parce que c'est un petit peu fastidieux, mais les auditeurs pourront trouver, où on questionne le comportement du sujet sans poser la question. Par exemple, on peut demander si combien est fini un morceau de musique, d'évaluer sur une échelle. Ce sont des choses comme ça où on peut le questionner de façon indirecte. Et si on prend ces précautions-là de questionner indirectement sans passer par le langage, alors là, on découvre des compétences vraiment surprenantes.
Emmanuel Bigan, dans votre livre rédigé avec Barbara Tillman, vous apprenez qu'il vous conseillait de, comme on dit, musicaliser l'éducation, que la musique faciliterait l'acquisition des connaissances, que les enfants qui font de la musique ont plutôt de meilleurs résultats. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment à l'ordre du jour, même s'il y a des directives ministérielles.
Alors, écoutez, je sais pas trop. Je fais pas de politique, donc
je
me rends pas trop compte.
De politique. On sait que la classe de musique est plutôt le parent pauvre au lycée et au collège.
Oui, oui, c'est bien dommage, ça c'est certain. C'est bien dommage, d'autant que organisé par le ministère de l'Éducation, il y a eu des magnifiques recherches dont on parle dans le livre, qui montrent que si on fait même que 2 heures de musique dans les petites classes, par exemple, on a des effets considérables sur l'acquisition scolaire, y compris même lorsque les ateliers sont finis pendant un an encore après la fin des ateliers. Donc oui, musicaliser l'éducation, c'est important pour 2 aspects, peut-être juste de dire cela. Les aspects cognitifs, on en a beaucoup entendu parler, la musique facilite les acquisitions et le développement cognitif des enfants, mais aussi les aspects sociaux et socio-affectifs, c'est ce qu'on explique dans le livre. Musicaliser l'éducation, c'est créer un rapport à l'éducation qui est différent, c'est-à-dire on éduque les enfants par la musique, par tout ce que la musique apporte sur le plan socio-affectif. Et ça, c'est un enjeu qu'on est en train de développer dans ce qu'on appelle les neurosciences affectives, comprendre tout ce que la musique peut apporter aussi sur ce volet-là. Donc il y a pas que le cognitif, il y a aussi le socio-cognitif, et ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, ça crée une sorte de triangle vertueux, et donc la musique a un grand rôle à jouer dans l'éducation, c'est certain.
Mmh. Emmanuel Bigand, vous évoquez également l'équilibre entre cognition et affect, et l'engagement émotionnel que le son produit, donc ce n'est pas seulement la réception du son, mais c'est également l'effet produit par le son.
Oui, en fait, le terme de symphonie neuronale, si vous voulez, oui. C'est un terme facile, mais ce que ça veut dire, c'est que la musique active trois grandes sphères de processus dans la tête de l'auditeur, et encore plus dans celui qui joue la musique, même s'il la danse et l'interprète, bien évidemment. Ce sont les sphères cognitives, avec tous les jeux de traitement de structure donc, qu'on a évoqués, la sphère sensible, avec tout le traitement et la compréhension de l'expressivité musicale, et la sphère motrice. Même lorsque vous êtes passif, votre cortex moteur s'active à l'écoute de la musique. Et ce qui se passe pendant l'écoute musicale, c'est que l'ensemble des neurones qui portent ces compétences se synchronisent. Ils se synchronisent au sens très concret. On a fait des études à Marseille avec l'équipe de Patrick Chauvel sur cela. Les décharges d'influx nerveux sont rythmées, si vous voulez. Donc c'est exactement comme dans une symphonie. Les neurones sont les musiciens et lorsque le chef d'orchestre donne le départ, eh bien tout le monde se synchronise. Eh bien, c'est exactement pareil. La musique synchronise, c'est l'ensemble de ces neurones. Et ça, cette synchronisation, on le sait, a des effets de plasticité cérébrale qui sont tout à fait positifs.
L'orchestre symphonique Simon Bolivar, dirigé par Gustavo Dudamel, c'était un extrait du ballet Stancia d'Alberto Ginastera. Emmanuel Bigand, vous mentionnez ce système éducatif, El Sistema, au Venezuela, d'où est issu cet orchestre et ce chef d'orchestre, Gustavo Dudamel. Donc là, on comprend très bien, évidemment, les bienfaits de la musique, autant dans le domaine éducatif que dans le domaine social.
Oui, alors c'est sans doute une très grande émotion d'avoir découvert ces programmes de socialisation par la musique qui sont apparus, qui ont déferlé avec ces orchestres magnifiques, qui ont déferlé sur les grandes scènes,
ouais.
Des Proms et de Salzbourg, vous avez tout le monde
vu
cela.
Oui, oui, oui.
Et pour nous, scientifiques, c'était quelque chose de magnifique aussi, en plus de l'émotion musicale, parce que c'était une sorte de validation à grande échelle, ce que nous n'avons pas l'occasion de faire, à niveau de l'échelle d'une société, des effets dont nous parlons. Des effets qui portent non seulement sur le développement cognitif, et puis vous avez vu, ces orchestres, ils jouent super bien, et ils sont très compétitifs, d'ailleurs ils ont eu beaucoup de succès,
ouais.
Mais sur le plan social, cela veut dire, comme on le disait tout à l'heure, que la musique apporte aussi un équilibre aux individus sur la dimension socio-affective. Et d'ailleurs, c'était l'idée d'Antonio Abreu, de dire la musique met les gens en progrès. Et peut-être, si vos auditeurs, je leur demande de retenir qu'une chose, c'est ça. La musique met les gens en progrès, et c'est ce qu'on explique dans le livre, et c'est ça qui est vraiment fabuleux. Et il faut comprendre que ce progrès, il est sur le plan cognitif, sensible et moteur. Donc c'est vraiment un progrès qui est généralisé. Et ce que montre de façon éblouissante, époustouflante, c'est El Sistema, c'est cela. Si vous partez, il n'y a pas que El Sistema qui l'a fait. D'ailleurs, le projet El Sistema s'est répliqué dans des tas d'endroits, en Afrique du Sud, etc., partout. Et si vous partez dans des terrains extrêmement difficiles, la musique peut tout d'un coup faire émerger des énergies extrêmement positives, de très haute qualité musicale, autant que humaine. Et ça, c'est vraiment une démonstration remarquable.
Dans un chapitre intitulé « Bien vivre avec la musique », Emmanuel Bigand, vous expliquez que la musique sert à réguler les états affectifs et émotionnels de la même façon que l'alcool, la caféine ou d'autres substances qui modifient directement l'état psychologique.
Oui, alors il faudrait le formuler un tout petit peu différemment. Mais effectivement, parmi les grandes découvertes, on s'est rendu compte que dans le cerveau, il y a un système qui est bien lové au cœur du cerveau, qui est le système de la récompense, qui est un peu le gouvernail du comportement. Et normalement, on n'accède à ce système de la récompense que les stimuli qui sont dits biologiquement pertinents, donc la nourriture, le sexe bien sûr, ou qui sont secondairement très importants, comme l'argent ou les voitures dans notre monde à nous. Et on s'est demandé, mais qu'est-ce que la musique pourrait venir faire là-dedans ? La musique est un objet de loisir, si on croit cela, il n'y a aucune raison qu'elle vienne là. Peuvent venir aussi stimuler ces zones, la drogue et l'alcool, bien sûr, de façon artificielle. Et Robert Zator et son équipe, en faisant écouter des musiques intensément plaisantes aux gens, vous savez, celles qui donnent des frissons, s'est rendu compte qu'en fait, les noyaux accumbens, qui sont ces noyaux essentiels pour la production de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui rentre dans les circuits du plaisir, bien, la musique avait le pouvoir de réveiller ces réseaux-là. Et ça, ça a été une découverte extraordinaire, parce que ça a montré que le plaisir musical, on est tous conscients de ce plaisir-là, c'est pas juste un plaisir qui flotte comme ça dans l'air, c'est un plaisir qui est profondément enraciné, j'ai envie de dire, dans les zones les plus essentielles, le gouvernail du comportement humain, et pas que humain d'ailleurs.
Un extrait du Raga Puriya Kalyan par Ravi Shankar. Emmanuel Bigand, dans les bienfaits de la musique, on apprend qu'on le sait d'ailleurs, que la musique peut aider à dépasser ses limites physiques quand on court. Ça permet aussi de lutter contre le stress et la douleur. Vous citez des expériences faites en milieu hospitalier et on évoque justement Ravi Shankar. C'est pour ça que j'ai fait ce petit clin d'œil à ce compositeur, à ce musicien. Quels sont les bienfaits les plus absolus ? Vous parlez également de concentration au travail. Comment est-ce que la musique peut aider à se concentrer et non pas plutôt à se déconcentrer ? J'avoue que je peux pas faire les deux, mais...
Alors, il y a de nombreux effets de la musique sur le cerveau et on peut les mesurer facilement. Il y a énormément de styles musicaux et chaque style musical nous parle d'un aspect du cerveau, un aspect un petit peu précis, un aspect particulier. Bon, on a donné cette, vous avez fait entendre cette musique de Ravi Shankar qui est magnifique. On sent tout de suite ici que le temps est complètement suspendu. Donc, on a un rapport au temps qui nous ramène peut-être un rapport au temps du Moyen-Âge, mais comme on n'a pas vécu à ce moment-là, il faut aller dans ces musiques aussi anciennes pour retrouver cette espèce de rapport extrêmement lent au temps. Et ça, évidemment, nous allons l'entendre. Alors, nous allons l'entendre au niveau neurophysiologique, nous allons l'entendre avec tous nos filtres cognitifs et culturels. Et ça, ça va avoir un effet. Et lorsque l'on veut modifier les états psychologiques des personnes, eh bien, effectivement, il faut essayer de puiser dans toute cette diversité stylistique pour trouver des effets. Alors, pour revenir à votre question, la concentration, oui, en entreprise, parfois, on peut la renforcer avec de la musique. Alors, ça dépend des styles de musique. Et là, il faut être très attentif parce que ce que vous pouvez gagner en concentration d'une main, c'est un petit peu comme quand vous conduisez, si vous voulez. La musique vous aide, vous donne de l'énergie, mais si cette énergie ne passe pas sur la route et la conduite, le trafic, ça sert pas à grand-chose. Si elle reste à focaliser sur la musique, vous n'avez pas gagné en concentration, même si vous avez plus de motivation. Donc, il faut que les musiques soient bien choisies. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la musique peut aussi vous désinhiber. En entreprise, c'est très intéressant d'utiliser la musique avant des séances dites de brainstorming, où on cherche à développer l'innovation et on montre qu'en fait, en faisant écouter de la musique avant ces séances-là, une sorte de libération qui se fait et on peut voir en scanner qu'en fait, le cortex frontal est moins actif. Le cortex frontal, c'est ce qui s'occupe de l'inhibition des comportements. Si votre cortex frontal est peu fonctionnel, ben vous allez être complètement désinhibé, tel Phineas Cage. Donc la musique peut jouer sur cela, mais tout dépend évidemment de la façon dont on choisit les musiques. Et c'est là où il faut savoir un peu faire.
Très bien, merci beaucoup Emmanuel Bigand. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez écrit avec Barbara Tillman, La symphonie neuronale, pourquoi la musique est indispensable au cerveau. Livre qui vient de paraître chez Humaine Science. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.